Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Apis mellifera, aujourd'hui on poursuit la dernière émission sur la reine qui date du 21 novembre 2021, une émission que vous pouvez retrouver en podcast bien sûr sur le site de cfmradio.fr, une émission habilement concoctée par Gaëlle Matura. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Lisa, bonjour les auditeurs de CFM.
L'animatrice du Rucher École de Caylus. Alors Majesté, quoi de neuf au royaume?
Oh bah plein de choses, hein, parce que cette reine elle est intéressante, il y a des choses à dire. Donc, je vous propose de détailler un peu plus aujourd'hui son anatomie, l'anatomie de cette femelle, la seule qui est capable d'assurer la reproduction au sein de la colonie. Alors, si vous avez la chance, ou si on prend le temps d'observer une reine sous une loupe binoculaire, hein, je précise, on peut constater qu'elle a des adaptations morphologiques différentes de celles des ouvrières. Par exemple, sur ses pattes arrière, elle n'a pas la brosse, le peigne. C'est une adaptation morphologique sur la face interne de la patte. Et elle n'a pas non plus la corbeille qui se trouve sur la face externe des pattes et qui permet aux ouvrières de récolter le pollen. Et pour ce qui est de l'ordre du visible à l'œil nu, on peut constater que son abdomen il est beaucoup plus développé que celui des ouvrières. Ça, c'est un fait assez connu.
Et on ne va pas le faire, hein, mais si on pouvait regarder à l'intérieur de la reine, elle a des particularités?
Oui, elle a des particularités et on va commencer par parler de choses qui piquent. On en avait déjà parlé, le dard de la reine, il est lisse. Il n'y a pas de petits crochets qui s'accrochent dans les chairs du prédateur. Cette reine, elle peut donc piquer plusieurs fois. Et les points d'attache de son système vulnérant, c'est comme ça qu'on appelle le dard accroché au sac à venin, et ben les points d'attache ils sont plus robustes. Donc quand elle retire son dard, elle ne risque pas de se déchirer l'abdomen. Et ce qu'il faut bien penser, c'est qu'une reine vierge, elle pique essentiellement pour éliminer ses concurrentes, les autres reines. Une fois fécondée, la reine, elle ne piquera plus, bien qu'elle en reste capable. Et de nombreux apicultrices et apiculteurs ont montré à travers leur expérience que la reine, qu'elle soit une reine vierge ou une reine fécondée, elle ne se sert jamais de son dard contre l'homme ou de la femme quand on la prend entre les doigts pour pouvoir la marquer avec une petite tache de peinture. Par contre, si on est vraiment très maladroit, si on la coince, si on la serre, si on la pousse dans ses retranchements, là, elle va piquer. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle a plus de venin qu'une ouvrière et qu'une piqûre de reine, c'est plus douloureux qu'une piqûre d'ouvrière. Mais il faut vraiment être très maladroit pour se faire piquer par une reine. Et ce qu'on sait aussi, donc là, c'est expérimental, hein, c'est les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, c'est que son appareil venimeux, il est fonctionnel les premiers mois de sa vie. Et plus elle va prendre de l'âge, et plus cet appareil il va régresser, et le sac à venin va dégénérer, ainsi que les glandes qui fabriquent le venin. Donc plus elle est vieille, et moins il y a de risque de se faire piquer.
Les premiers mois de sa vie, donc là où elle se fait féconder, le mâle il se fait pas piquer par le dard de la reine pendant l'accouplement?
Alors c'est une bonne question, hein, parce que tout le monde n'y pense pas, mais effectivement, cette période d'accouplement, ça peut être chaud. En fait, c'est pareil, un scientifique spécialiste des abeilles, Monsieur Koeniger, qui en 1984, il a étudié en finesse les modalités d'accouplement avec des reines maintenues en haut d'un mât, donc des reines accrochées hein, sur des grandes tiges. Comme ça, il pouvait les observer à loisir. Une fois que ces reines ont été accouplées, il a récupéré ces reines et il les a congelées. Ce qui permet après de les disséquer et de voir comment sont les organes à l'intérieur. Donc c'est des méthodes un peu barbares, mais on ne sait pas faire autrement pour observer les particularités des abeilles. Et donc il a constaté que la position de l'aiguillon du dard pendant le coït, il joue un rôle essentiel à la sécurité du mâle. En fait, tout l'appareil vulnérant, dard, sac à venin, tout est rejeté vers l'arrière et est tourné de manière à ne pas blesser le partenaire. Et donc, l'ouverture vaginale de la reine prend une forme d'entonnoir, ce qui permet la pénétration par l'organe du mâle. Il peut donc féconder sans risque sa promise. Mais par contre, on sait bien que cet acte lui sera fatal puisqu'il ne survivra pas à ce coït en plein vol.
La reine, qui est donc la seule à pouvoir se reproduire parmi sa tribu, elle a donc une morphologie interne particulièrement différente par rapport à ses organes reproducteurs.
Oui, donc ce gros abdomen, cet abdomen royal qu'on peut constater en observant une reine, en fait, il est assez peu développé quand elle est encore vierge. Elle est encore svelte et légère. Et dans la colonie, elle se déplace d'ailleurs très rapidement quand elle est encore reine vierge. Et elle est souvent très agitée. Et alors, cette finesse, cette légèreté, ça lui permet d'effectuer ses vols de fécondation. Par contre, une fois qu'elle est fécondée, son abdomen grossit très rapidement, en quelques heures, et elle peut peser jusqu'à 30 mg supplémentaires. Alors évidemment, si toi et moi, on prend 30 mg, on ne va pas s'en apercevoir. Sur un insecte, c'est une prise de poids énorme. Alors, cette prise de poids s'explique d'une part parce que son abdomen, il est rempli dès l'origine de deux énormes ovaires capables de produire plus de 200 000 œufs par an. Et une reine va vivre entre 3 et 4 ans. Donc, je vous laisse faire la multiplication. Et à côté de ces ovaires, on trouve, alors ça a une taille plus réduite, se trouve la spermathèque. C'est une sorte de globe qui contient quand même environ les 7 millions de spermatozoïdes issus de la quinzaine de mâles différents qui se sont fécondés avec elle. Et donc la prise de poids se fait vraiment au moment où cette spermathèque gonfle, se remplit.
Et outre son matériel reproducteur, la reine, elle a des glandes particulières, je crois.
Alors oui, elle a des glandes particulières. On avait fait une émission là-dessus, sur le système glandulaire. L'expression n'est pas très jolie, mais c'est des organes très, très importants pour la colonie d'abeilles. Alors la reine, elle ne possède pas les glandes hypopharyngiennes. Ça, ce sont les glandes qui produisent la gelée royale et qui fabriquent aussi des enzymes utile à la transformation du nectar en miel. Elle ne dispose pas non plus de glandes salivaires thoraciques. Donc ça, c'est une particularité. Hein. C'est des glandes salivaires, mais qui sont dans le thorax. Bref, ces glandes-là, elles produisent un liquide qui est riche en eau et qui sert aux ouvrières pour dissoudre les sucres et les miels cristallisés. Donc la reine, elle n'a pas ça. Elle ne possède pas non plus les glandes salivaires qui sont dans la tête et qui, là, produisent une sécrétion huileuse qui sera mélangée à la cire. Puisque la reine ne produit pas de cire, donc elle n'a pas besoin de ces glandes-là non plus. Par contre, elle est la seule à posséder des glandes dorsales attractives lors des vols de fécondation. Et cette glande, elle est aussi active pour le maintien de sa cour royale, pour que la dizaine d'abeilles autour d'elle reste et s'occupe d'elle. Alors, s'occupe d'elle, l'oblige à pondre aussi en même temps. D'accord, c'est une cour royale, mais elle est un peu aussi esclave de sa cour royale. Et puis, ces glandes dorsales, elles participent aussi à l'inhibition des ovaires des ouvrières, en même temps que les sécrétions de la glande mandibulaire, la glande qui vient des mandibules. Et en fait, ces deux phéromones participent à la castration chimique des ouvrières.
Parce que les ouvrières pourraient pondre, en fait, c'est comme les poules.
Voilà, c'est ça. Les ouvrières, elles ont des ovaires, elles seraient capables de pondre également des œufs, donc uniquement des œufs non fécondés, qui donnent des mâles. Mais ces phéromones de castration chimique émises par la reine empêchent ces ouvrières d'avoir envie de pondre. Et d'ailleurs, à ce propos, la reine possède la glande de Dufour avec laquelle elle marque ses œufs, ce qui permet aux abeilles nourrices de détecter les œufs pondus par des ouvrières qui, d'un coup, ont un petit coup de délire. Et donc, dans les colonies, il y a toujours quelques ouvrières qui arrivent à pondre, comme on vient de dire. Et comme les œufs de la reine sont marqués avec une odeur spécifique, eh bien, les nourrices, elles éliminent les œufs qui n'ont pas l'odeur de la reine. Voilà. Une autre fonction importante sur la glande mandibulaire, ça renforce la cohésion sociale au sein de la ruche. Ça attire les jeunes ouvrières et ça les incite à lécher et à antenner la reine. Alors nous, entre nous, on s'antenne pas trop, hein, on n'a pas l'habitude, nous les humains, mais les abeilles s'antennent beaucoup, puisque les antennes, ça va être un capteur de chaleur, de phéromones, c'est un organe tactile aussi pour se toucher, pour se reconnaître. Donc voilà. Et puis, dans cette glande mandibulaire aussi, il y a une production de différents acides, donc avec des noms compliqués, qui attirent les mâles pour la reproduction, qui attirent les ouvrières lorsqu'il y a l'essaimage. On se pose toujours la question, pourquoi un essaim reste toujours en boule et pourquoi les ouvrières ne perdent pas leur reine ? Bah, parce qu'elles la suivent à l'odeur, hein, et elles sont attirées par cette phéromone spécifique. Cette phéromone issue de cette glande mandibulaire, elle gère un peu aussi le fait qu'il y ait ou pas essaimage. D'accord ? Donc ça, c'est avant que les seins partent, c'est à l'intérieur de la ruche. Et puis, cette glande mandibulaire, elle stimule aussi une autre glande chez les ouvrières qui s'appelle la glande de Nazanov, qui se trouve au bout de l'abdomen. Et quand on voit des ouvrières qui se posent sur la planche d'envol devant une ruche, on les voit qui lèvent l'abdomen, qui écartent un peu une partie de leur abdomen, et on voit une petite tache blanche. Et ben ça, c'est la glande de Nazanov chez les ouvrières, et ça émet une phéromone qui dit « la maison, c'est ici, et notre reine habite ici ». Et donc, pour stimuler les ouvrières à produire ce parfum de « c'est chez moi », c'est la reine qui produit une autre phéromone. Voilà. Donc, c'est des phéromones et d'autres phéromones qui se répondent à travers toute cette colonie. Voilà. Et puis, il y a une autre phéromone aussi. Enfin, ces phéromones, elles vont diminuer avec l'âge de la reine. Et puis, ça explique qu'au bout d'un moment, la colonie, elle va vouloir changer de reine, élever une nouvelle reine. C'est parce que l'ancienne reine ne produit plus assez de phéromones et ça se dilue pas assez dans la colonie. Voilà. Et puis, ces phéromones, elles n'ont pas les mêmes quantités en fonction de la journée, de la nuit. Voilà, tout ça, c'est un équilibre qui s'ordonne tout au long de la saison et en fonction de ce que la colonie, elle augmente ou elle rétrécit. Donc tout ça, on connaît plein de choses, mais on en découvre encore un peu tous les jours. Et par exemple, il y a une glande qui est peu connue, c'est la glande de Kochechnikov, qui sécrète aussi des phéromones de stress chez la reine. Et par exemple, quand on prend une reine dans nos doigts pour la marquer, pour lui mettre le petit point de peinture, eh bien parfois, quand on la repose dans sa ruche d'origine, les ouvrières l'emballent. Les ouvrières sont toutes énervées, elles emballent la reine, et si l'emballement se prolonge, elles peuvent carrément tuer leur propre reine. Eh bien ça, c'est parce qu'en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais en marquant la reine, on l'a stressée, elle a produit cette phéromone de stress, et les ouvrières répondent à ce message de stress en formant une boule autour de leur reine.
On pourrait presque dire que la reine, c'est l'émetteur et les ouvrières, le récepteur au niveau interne, au niveau des glandes, en fait.
Oui, alors en sachant aussi que les ouvrières émettent aussi des phéromones qui font réagir la reine. Le couvain, les larves, émettent aussi du phéromone. Voilà. En fait, c'est vraiment des messages, c'est des questions-réponses qui nous restent totalement invisibles pour nous, mais on sait que ça se passe comme ça au sein de la colonie. Et c'est vrai que la plus grosse émettrice, c'est quand même la reine.
Et puis elle est pleine d'ovaires et pleine de sperme aussi, la dame.
C'est ça.
Pour toute sa vie. Eh bien, on aura peut-être une prochaine émission sur la découverte de la reine, vu que la recherche avance et qu'il y a quand même plein de choses à dire. En tout cas, il y a plein d'émissions sur les abeilles en général sur le site de cfmradio.fr. Apis mellifera, une émission tous les mois animée par Gaëlle Mathura, animatrice du Rucher École du CPU Quercy-Garonne de Caylus. D'ailleurs, les séances ont repris là, il n'y a pas si longtemps. Vous êtes enfermée dans la salle des associations, vous ne vous approchez pas les abeilles en ce moment?
Alors, un petit peu la salle des associations, un petit peu la salle des fêtes de Caylus. On ouvrira les ruches pour la première fois au mois d'avril. Et puis, on est complet. Là, on est archi complet. J'ai encore des demandes. Mais là, maintenant, si vous voulez vous inscrire, c'est avec grand plaisir, mais c'est pour 2023.
Voilà, désolée. Gaëlle Mathurin, merci beaucoup. Au mois prochain.
Merci, à bientôt.